l'expansion économique, que c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Et il est avec nous, le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, on a parlé blockchain, on a parlé crypto-monnaie là, dans les deux dernières rubriques. J'attends avec impatience ce troisième épisode.
Et voilà, troisième épisode de notre trilogie exceptionnelle. On passe au NFT. Ouais. N, les lettres, hein. NFT, on va me dire, ça veut dire quoi ce truc? Eh bien, en anglais, ça veut dire, tiens-toi bien, non-fungible tokens.
Ouais,
je parle bien anglais, je sais. Donc en français, traduction, jetons non-fungibles, ce qui n'est pas plus clair.
Ouais. Ça me fait penser à des éponges.
Ouais, voilà, c'est jetons, un peu ça, non, pas du tout, c'est pas ça. Jetons, le terme jetons signifie qu'on parle d'un actif, d'un bien, mais un actif numérique. Pas un bien physique, un bien numérique, qui n'a pas d'existence physique, mais uniquement une existence digitale. Non-fungible signifie que ce bien est unique. Par exemple, si tu as un billet de 50 euros, il n'est pas unique. Tu peux le remplacer par 5 billets de 10 euros. Ouais. Par contre, un NFT est unique, comme un tableau peint et signé par un artiste est unique. Mais s'il est unique, alors qu'on sait que dans le monde numérique, on peut copier n'importe quoi à l'infini avec un clic droit de la souris, ouais, qu'est-ce qui nous garantit qu'il est vraiment unique ? Ah. Eh bien, figure-toi, Mathieu, que c'est la technologie de la blockchain. Et nous y revoilà avec la blockchain. CF, l'épisode 1, que j'ai mis en lien, de même que l'épisode 2. Pour information, c'est la plateforme Ethereum qui gère une crypto-monnaie très populaire, l'Ether, qui, la première, a lancé des NFT. Donc, on a, d'un côté, les avantages de la blockchain, qu'on a déjà évoqué, hein, le fait que c'est infalsifiable et qu'on n'a pas besoin d'avoir recours à une autorité extérieure. Mais par contre, de l'autre côté, on a aussi les inconvénients de la blockchain.
C'est-à-dire
Tu ne te souviens pas? Un coût écologique délirant.
Oui.
Eh oui.
C'est vrai.
Alors, on a un site spécialisé dans l'économie, un site anglo-saxon qui s'appelle Quartz, qui a comparé la création et la vente d'un NFT avec la vente d'une version imprimée physique d'une œuvre d'art. Eh bien, résultat, le NFT émet 91 fois plus de carbone qu'une vente physique équivalente. D'accord ? Deuxième petite comparaison, la vente d'un NFT émet autant de CO2 qu'un trajet de 800 km dans une voiture à essence américaine, s'il te plaît. Donc, qui consomme un maximum. Bon, il n'empêche, chers auditeurs, que les NFT, c'est la folie actuellement. Hein ? Tout le monde veut son NFT, des chiffres, hein, pour voir un petit peu l'ampleur du phénomène. Début 2022, les transactions de NFT représentaient 17 milliards de dollars. Un peu plus de trois mois après, le 17 avril, on est passé à 55 milliards de dollars.
D'accord.
Le groupe Amazon parle de commercialiser des NFT. Des entreprises créent des NFT. Par exemple, Alfa Romeo veut offrir un NFT à chaque acheteur de son nouveau SUV qui va sortir, dont je ne vous dirai pas le modèle. Decathlon a lancé en avril son premier NFT et il veut créer une communauté qui participera à divers événements réservés aux propriétaires de NFT. Mmh. Voilà, j'ai mis en lien un article qui parle de diverses entreprises. Alors, pour autant, il faut comprendre certaines subtilités derrière ce concept. Hein. Quand on a un NFT qui représente un objet existant dans le monde physique, alors qui est une copie, une photo éventuellement d'un objet existant, ça ne nous rend pas propriétaires de l'objet physique. D'accord ? Alors, un exemple pour comprendre, le fils de John Lennon, Julian Lennon, début 2022, a vendu des NFT de certains objets qu'il possède et qui ont appartenu aux Beatles. Par exemple, il a vendu les notes manuscrites de la chanson Hey Jude pour 76 800 dollars. Mais, les objets sont restés en sa possession. Il est malin, le Julian.
Il a gardé le papier, il a vendu le NFT.
Il garde les documents, il garde les biens, mais il vend des NFT de ses biens.
Et concrètement, la personne qui a acheté, elle a quoi?
Voilà une bonne question. Patiente, petit padawan, tu vas voir la réponse. Quand on a un NFT, en plus, parce que là je vais encore plus te plomber, on ne devient pas propriétaire de l'œuvre numérique en question. La preuve, c'est que n'importe qui d'un clic droit a le droit de faire une copie du NFT. Non, on devient juste propriétaire d'une collection de codes inscrits sur une blockchain et qui contiennent des informations sur 1. L'emplacement de l'œuvre originale et 2. Sur vous, le propriétaire de cette version particulière de l'œuvre qu'est le NFT.
D'accord.
Donc c'est un peu bizarre, là, de me dire, oh, mais alors, tu viens de le dire, quel intérêt, hein, pourquoi cet engouement en quelque sorte?
Ouais.
Alors pour répondre à cette question, on va bien séparer le vendeur de l'acheteur. Commençons par le vendeur. Vous êtes un artiste, vous avez créé une œuvre. Vous faites un ou des NFT de cette œuvre et vous les vendez. Et bien vous allez voir que c'est très malin. Parce que imaginez, vous vendez un tableau 1000 euros. Et puis, 5 ans après, votre cote a monté et l'acheteur de votre tableau, il va le revendre 35 000 euros.
Ouais.
Ah, vous n'avez pas vu la couleur, hein, vous, le peintre.
Ouais, il s'est fait 30 000 euros.
Et voilà. Sauf que dans les NFT, pas du tout. Les NFT, quand ils prennent de la valeur, ils comprennent un système de commission que le vendeur originel va toucher à chaque fois sur les reventes du NFT.
D'accord.
Donc ça, c'est très intéressant pour les vendeurs.
L'œuvre d'art peut prendre en valeur et être vendue à chaque fois.
À chaque fois qu'elle sera revendue, il y aura une commission qui va revenir au créateur.
À l'artiste. D'accord, ok.
Donc ça, c'est un point très intéressant côté acheteur. Vendeur. Passons au côté acheteur. Alors, bien sûr, on pourrait dire il y a l'aspect purement spéculatif qu'on a déjà identifié dans l'épisode 2 sur les crypto-monnaies. On achète un NFT pour espérer le revendre plus cher. C'est ce qu'on avait appelé le stade ultime du capitalisme et ce que j'avais aussi appelé le capitalisme le plus bourrin, faire de l'argent avec de l'argent. Mais ça, ce n'est qu'à la face émergée de l'iceberg. D'accord. Et c'est une vidéo géniale de la chaîne YouTube Marketing Mania qui nous révèle la face immergée de l'iceberg des NFT. Derrière le succès immense et fulgurant des NFT, il y a l'indécrottable nature humaine. D'accord ? Je vais t'expliquer ça. Les êtres humains sont des êtres sociaux. Ils sont programmés biologiquement pour faire partie de groupes humains. Et les milliers d'années de l'évolution ont inscrit en nous tout un ensemble de mécanismes dont certains jouent à plein dans le succès des NFT. L'auteur de la chaîne YouTube Marketing Mania, qui s'appelle Stan Leloup, a analysé le succès des tout premiers NFT qui ont lancé la folie. Ces tout premiers, c'était une série de dessins de singes, et ça s'appelait les Bored Apes, c'est-à-dire les singes qui s'ennuient. Dans cette vidéo, Stan Leloup explique la stratégie minutieusement déployée pour faire de ces Bored Apes un succès colossal. Cette stratégie passe en deux étapes principalement, c'est pas très compliqué. Un, commencer par créer un noyau dur de personnes à très haut statut, des influenceurs, des stars, des millionnaires, etc., à qui on va offrir des NFT de Bored Apes.
Ah ouais.
Alors, qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Au début, pas grand-chose, éventuellement de la plus-value plus tard, mais ça, je ne suis pas sûr que c'est ce qui les intéresse le plus. Non, ce qu'ils y gagnent, c'est l'idée de rentrer dans un club très fermé, dont ils espèrent qu'il va devenir super branché, le Bored Apes Yacht Club. Ils ont formé un club très fermé de membres propriétaires de NFT Bored Apes.
Et notre point
qu'on
commun,
le Bored Apes Yacht Club.
On possède des photos de singes ridicules.
Ouais.
Ok.
Vous faites rentrer des influenceurs. Après, deuxième partie, vous créez un deuxième groupe, les aspirants, ceux qui veulent rentrer dans ce club. Et eux, ils vont payer cher pour intégrer le groupe. Ils vont acheter des Bored Apes et ils sont prêts à les acheter très cher. Mais leur motivation est la même, c'est intégrer le groupe, montrer qu'on fait partie des initiés. Éventuellement gagner de l'argent si on en revend, mais ça, c'est secondaire. D'accord ? Et après, on a le reste de la population qui reste dehors. Alors elle peut se moquer de ces gens-là, que c'est complètement crétin, ça rime à rien, etc. Elle peut les mépriser, c'est pas grave, parce que ça ne fait que renforcer le sentiment d'appartenance au groupe, sentiment d'être un élu, d'être différent. Et c'est ça le mécanisme, d'accord ? C'est ainsi qu'un comportement qu'on voit de l'extérieur comme aberrant devient compréhensible. Parce qu'on est au cœur de la mécanique de l'être humain, animal social. Appartenir à un groupe structuré, tout faire pour l'intégrer et pour grimper les échelons à l'intérieur de ce groupe. Bon, après ça, le succès des NFT, c'est juste une question d'offre et de demande. Plus la demande est forte, plus la valeur des NFT augmente. C'est le bon vieux mécanisme de base du capitalisme. On pourrait faire d'autres développements sur les NFT. Et je vais mettre en lien pour ça deux articles du site theconversation.com qui sont passionnants. Le premier parle de NFT et métavers. Et le deuxième, c'est une réflexion sur le fait que les NFT marquent une nouvelle étape dans l'interpénétration du monde physique et du monde digital. Donc je mettrai tout ça en lien, de même que je mettrai bien sûr en lien la vidéo de Marketing Mania. Pour notre part, on va conclure, Mathieu. On va conclure notre trilogie blockchain, crypto-monnaie, NFT. On a compris que c'est l'invention géniale de la blockchain qui est à la base de la petite révolution des crypto-monnaies et des NFT. On a aussi compris que très vite, les idées philosophiques nobles qui sont à l'origine de ces mouvements, Internet, espace de liberté, espace de créativité, qui refusent le joug de toute autorité, eh bien ces idées très nobles sont inévitablement transmutées comme par un processus alchimique par l'incorrigible nature humaine, via deux pulsions qu'on pourrait résumer ainsi. Un, accumuler toujours plus. Deux, se distinguer du commun des mortels.
Ouais.
Et c'est tout. J'en ai fini, Mathieu.
Je trouve que ça fait vachement court de récré où il faut avoir les dernières baskets à la main pour attendre des gens cool.
Mais le capitalisme est un système pulsionnel assez primaire, si tu regardes.
Ah ouais, d'accord. Bon, c'est un monde de collégiens.
Exactement.
Très bien. Merci beaucoup, prof Patrick. En tout cas, c'était passionnant.
À plus.
Ensemble sur Calade.